20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'était l'un de ses plus grands rêves, depuis l'enfance même, jouer les concertos de Vivaldi, en tout cas des concertos parmi les centaines que le compositeur a consacrés au violon. Théotime Langlois de Swart nous livre aujourd'hui sa lecture colorée, fougueuse, lyrique et si touchante d'un florilège de ses concertos, un double album qui sort vendredi chez Harmonia Mundi et qui sera la semaine prochaine Trophée Radio Classique. Nous nous y plongerons ce soir en compagnie de Théotime Langlois de Swart qui sera à notre micro tout à l'heure. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. L'Orchestra del Mar et l'Orchestre de la Mer s'est produit lundi soir à la Scala de Milan en hommage aux noyés de l'exil. Un orchestre dont les instruments ont été confectionnés par des détenus de l'atelier de lutherie de la prison de Milan. Et cela à partir de bois issus des bateaux de migrants, des embarcations de fortune pour certaines, qui ont été accueillis sur l'île de Lampedusa ou qui ont fait naufrage. Une initiative que l'on doit aux violoncellistes Mario Brunello et Giovanni Solima, ainsi qu'au violoniste Gilles Appap, avec les musiciens de l'Accademia dell'Annunciata, dirigée par Riccardo Domi. Ils ont été longuement applaudis lundi soir à la Scala de Milan. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site et l'application de Radio Classique. La chef d'orchestre Oksana Liniv avait fait savoir qu'elle refusait de participer au Wiener Festwochen, où elle avait été invitée et où Theodor Kurensis devait également se produire. Le chef gréco-russe, soupçonné de sympathie avec Vladimir Poutine, devait y diriger le War Requiem de Britten. Le festival vient donc de trancher en déprogrammant le concert de Theodor Kurensis. Oksana Liniv, elle, dirigera bien le Requiem de Kaddish du compositeur ukrainien Yevhen Stankovid. Ce sera le 2 juin au Concerthaus de Vienne. Un oratorio de Handel à l'affiche de l'Opéra National de Lorraine dès dimanche et jusqu'au 23 février. La création sur le thème de la Genèse, dont le metteur en scène Kevin Bartz nous livre ici une lecture scénique en confrontant le livret et la musique de Haydn qui exalte la création divine avec les connaissances scientifiques actuelles sur l'histoire de l'univers et cela depuis le Big Bang. Une nouvelle production dirigée par Martha Gardolinska à la tête du chœur et de l'orchestre de l'Opéra de Lorraine avec en soliste Julie Rosé, Jonas Acker et Sam Karl.
Schmückst du in o Sonne, du des Welt als Sinn.
Stets neue Formen zeugt. Ihr Dienst uns Nebel, die der Wind versammelt und vertreibt, versammelt und vertreibt.
Und singet alle Gott dir und singet alle Gott dir und
singet alle Gott dir und
singet alle Gott dir und singet
alle Gott dir und singet.
Yeah. Un petit extrait de la création de Joseph Haydn dans l'enregistrement de William Christie avec Sophie Kartheiser, Marcus Verba et Les Arts Florissants. La création de Haydn, nouvelle production scénique de l'Opéra National de Lorraine à découvrir du 18 au 23 février à Nancy donc.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Vivaldi a été décisif dans Ma passion pour le violon, écrit Théotime Langlois de Swart dans la préface de son double album dédié au concerto de Vivaldi qui paraît chez Harmonia Mundi. Des concertos enregistrés avec ses complices du consort dont l'effectif a été quelque peu renforcé. Un album qui, on l'imagine, représente un moment fort dans la vie de ce violoniste qui, il l'écrit également, n'a jamais cessé de nourrir son rêve d'enregistrer un jour ses concertos. Il est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors cet album, il s'appelle Concerti per una vita et on pense à votre vie de violoniste, de musicien. Elle a toujours été tournée vers ces pages.
Alors, j'ai toujours adoré ce compositeur qui a été une vraie découverte quand j'étais enfant. La découverte des quatre saisons, la découverte du violon avec le concerto en la mineur, le 356 que j'ai joué quand j'étais tout petit parce qu'il est dans la méthode Suzuki. Et c'est vrai que c'est un compositeur que j'adore et je trouve aussi la vocalité, la beauté des mouvements lents est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je trouve il y a tout chez Vivaldi, à la fois Venise, l'opéra, le théâtre, la musique populaire, l'inspiration peut-être du, on va dire, de l'Est, presque oriental des fois, avec les... Voilà, et c'est quelque chose qui... C'est une musique qui me touche immensément.
On va évoquer justement la singularité de cette musique de Vivaldi. Un petit mot peut-être du point de vue de l'interprète, tout d'abord, par rapport aux sensations quand on joue Vivaldi par rapport à Bach. Vous avez beaucoup joué les concertos de Bach, notamment cet été, en concert. Est-ce que ce sont des sensations très différentes ou est-ce qu'au Bach, ayant beaucoup apprécié et copié la musique de Vivaldi, est-ce qu'on peut trouver des similitudes?
Alors, il y a la similitude du concerto, c'est sûr. Il a repris le concerto italien, enfin Jean-Sébastien Bach a vraiment repris le concerto italien, le modèle vivaldien du concerto. Après, dans le mode de jeu, il y a quelque chose de très différent, une inspiration aussi différente, mais disons que c'est vrai que les deux se complètent. En fait, moi je dirais c'est comme le yin et le yang du concerto baroque. Je pourrais pas jouer Bach si j'avais jamais joué de Vivaldi et inversement.
Mais il y a une patte vivaldienne que l'on reconnaît, un son propre à Vivaldi.
Absolument. Ben, c'est sûr que Vivaldi, en quelques mesures, c'est ça sa grande force. Il arrive à imprimer un caractère et une très grande sincérité, en fait. Et c'est ce qui fait la marque des plus grands compositeurs. C'est presque avec un accord de la mineur que tous les compositeurs peuvent utiliser. Il arrive tout de suite à faire reconnaître son style.
Thank you. Le début du concerto en mi majeur, RV 267A d'Antonio Vivaldi, concerto pour Anna Maria, joué par Théotime Langlois de Swart avec le consort. Un extrait de ce merveilleux double album dédié donc au concerto de Vivaldi qui vient de paraître et que l'on évoque ce soir avec Théotime Langlois de Swart, père Anna Maria. Pour Anna Maria, c'était l'une des orphelines de la Pietà.
Absolument, Anna Maria, c'était une des figures très importantes de l'Ospedale de la Pietà, une violoniste qui a écrit un cahier pendant ses études avec Vivaldi, où Vivaldi lui dédiait des concertos, et on a retrouvé ce concerto dans son fameux cahier qui est dans une bibliothèque vénitienne. Et ce qui est très touchant, c'est qu'on arrive à voir, donc c'est son écriture manuscrite avec laquelle on a lu ce concerto.
Ah, vous avez joué directement sur le manuscrit?
Absolument. En fait, c'est tout un travail qui est très émouvant, parce qu'on se rapproche à la fois de l'interprète et du compositeur. On a l'impression de se transporter à l'Ospedale de la Pietà, et c'est un concerto qui est vraiment dédié à Anna Maria. Donc je trouve qu'aussi cette figure féminine se ressent dans la musique. On sent vraiment qu'il a pensé à son caractère, sa manière d'être. Il y a une très jolie chaconne aussi, un deuxième mouvement. Il y a un troisième mouvement qui est très très pétillant et très vif.
On perçoit toute la théâtralité de Vivaldi. Son écriture, elle est très opératique. Quand on joue la musique de Vivaldi, on est à la fois musicien, chanteur, comédien, narrateur, metteur en scène.
C'est ça qui est fascinant, c'est qu'il arrive à tout réunir. Même dans un mouvement qui fait 3 minutes, on a à la fois deux caractères qui sont très forts, à la fois ce côté complètement fulgurant, tempétueux en mi majeur, le côté beaucoup plus capriccio avec cette grande ligne du violon, avec l'orchestre qui accompagne, et à la fin, il y a cette espèce de bout de madrigal de 4 mesures lento. Enfin, c'est impressionnant de trouver toutes ces ambiances-là. Et moi, à chaque fois, avec Vivaldi, je voyage.
Et comment avez-vous choisi justement, Théotime Langlois de Swart, les différents concertos de cet album? Il y a des concertos très connus et d'autres comme celui-ci que l'on a rarement l'occasion d'entendre. Comment s'est fait votre choix parmi cet immense corpus de concertos?
Ouais, je crois qu'il y a 300 concertos pour
le violon. Ouais.
Seulement pour le violon. Alors j'ai été aidé par Olivier Fourès, qui est un musicologue spécialiste de Vivaldi, qui a tout réécrit. Il a fait un immense travail d'édition. Et en fait, je voulais reconstituer, donc c'est un peu la vie de Vivaldi, mais c'est vrai qu'au début de l'interview, vous disiez que c'est aussi un peu ma vie d'une certaine manière. C'est vrai, en fait, il y a les deux. Il y a à la fois le rapport à la chronologie vivaldienne de son arrivée à la Pietà, même de sa naissance. En fait, on commence avec une pièce de Legrenzi. Son père jouait dans l'orchestre de Legrenzi. Giovanni Battista Vivaldi, violoniste, jouait dans l'orchestre de Legrenzi. Donc on commence avec la naissance de Vivaldi et on finit avec un des derniers concertos qu'il a joué à Venise avant de partir à Vienne et de mourir tout seul à Vienne. Et donc en fait, ça a été aussi finalement de choisir dans ce contexte un peu narratif. Ça aide beaucoup parce que dans chaque période, il y a des évolutions stylistiques. Il a fait aussi des rencontres, la rencontre de certains de ses élèves les plus importants comme Anna Maria, Chiaretta, aussi une autre figure de la Pietà, et bien sûr Pisendel, un grand virtuose germanique. Et donc finalement, c'était assez facile de choisir. En fait, les choix se sont imposés à moi.
Mais quand on suit l'évolution des concertos pour violon de Vivaldi, on perçoit donc l'évolution de son écriture. D'un point de vue violonistique, est-ce qu'il pousse de plus en plus loin les possibilités de l'instrument? Est-ce que c'est de plus en plus difficile, par exemple, d'un point de vue virtuose?
Alors, je dirais que les concertos les plus difficiles, c'est quand il avait une trentaine d'années. Dans son âge d'or, en fait, parce qu'il était quand même violoniste, et il jouait des fois même sur la scène de l'opéra du Teatro Sant'Angelo, quand il y avait des problèmes de remplissage, tout d'un coup il arrivait avec son violon, il jouait un concerto, et c'est ce qui permettait de relancer l'opéra, le théâtre. Donc on imagine que le rapport aussi à l'opéra était très différent, ouais, à l'époque,
les programmes, le rapport au concert
et, ouais. Et donc c'est vraiment passionnant, parce que en fonction de chaque dédicataire, il fait vraiment évoluer son style pour la main du violoniste pour lequel il va être joué. Mais après, c'est vrai qu'on voit aussi l'évolution du style. On passe d'un concerto à 5 mouvements, même 6 mouvements, un des premiers concertos qu'il a écrit pour la Pietà, à un concerto en 3 mouvements qui est vraiment beaucoup plus condensé. C'était fascinant comme travail.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a des inédits, des concertos qui n'avaient jamais été enregistrés. Il existe encore des inédits de Vivaldi.
En principe, on a terminé le cycle des inédits vivaldiens avec cet enregistrement.
Voilà, on va écouter justement l'un de ces inédits, un adagio, isolé, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé les autres mouvements de ce concerto.
Alors les autres mouvements ont été enregistrés en fait, c'est pour ça qu'on
ne
les a pas fait.
Ah oui, c'était uniquement l'adagio.
Voilà, l'adagio est d'une autre version et on a trouvé cette version-là et c'est vraiment un mouvement que j'adore.
L'adagio du concerto Hervé 768 d'Antonio Vivaldi, enregistré en première mondiale par Théotime Langlois de Swart avec le Consort. Un nouvel extrait de ce formidable album Vivaldi, récompensé par un trophée Radio Classique. Ce sera la semaine prochaine, donc nos auditeurs auront largement l'occasion de profiter de ce double album que l'on évoque ce soir avec Théotime Langlois de Swart. La musique de Vivaldi, quand on l'écoute, elle a un caractère très improvisé. Vous disiez tout à l'heure qu'il pouvait monter sur scène en plein milieu d'un opéra et jouer un concerto. Est-ce que ces concertos, en tout cas quand vous les jouez, vous avez l'impression qu'ils jaillissent comme une improvisation, justement?
Ben, c'est vrai que la trame vivaldienne est une trame improvisée parce que c'est vraiment basé sur la basse continue, donc cette basse qui est écrite avec des chiffrages, presque comme aujourd'hui pour la musique jazz. Et donc j'ai eu la chance d'être accompagné par des instrumentistes merveilleux comme Justin Taylor, bien sûr. Et donc c'est vrai que c'était une grande joie de pouvoir, en fait, il y a énormément de spontanéité. Je dirais que jouer cette musique sans spontanéité, enfin, c'est comme lui tirer une balle dans le pied, quelque chose comme ça.
Mais on l'aperçoit, cette spontanéité dans votre interprétation, c'est ce qui nous touche, c'est ce qui nous transporte. Justement, donc, vous êtes accompagné par vos complices du Consort, en effectif renforcé des musiciens, donc Justin Taylor, Sophie de Bardenèche et Anna Salzenstein, avec lesquels vous avez beaucoup joué déjà la musique de Vivaldi, mais à l'origine, c'était plutôt les sonates en trio. Cela vous a aidé à préparer ce programme de concerto, à comprendre, à rentrer dans le langage de Vivaldi?
Ben j'avais vraiment à cœur de montrer aussi un panel d'instrumentation possible entre la sonate pour un violon et continuo qu'on a enregistré jusqu'à un répertoire presque pré-symphonique avec deux cors, deux hautbois et timbales. Et donc ce qui donne aussi, j'avais envie de changer l'effectif des violons, de l'orchestre à cordes, pour justement montrer toute cette variété d'endroits où on jouait cette musique à l'époque. Parce qu'ils jouaient bien sûr aussi pour des concerts particuliers, chez des gens, des aristocrates. Ils jouaient aussi bien sûr à la Pietà, où il avait un effectif par exemple avec un psaltérion. Et donc le psaltérion, on a peu l'habitude d'entendre.
À préciser peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le psaltérion.
Le psaltérion, c'est un instrument à cordes frappées. Ça peut ressembler au tympanon. C'est un son très céleste avec des. On a des marteaux qu'on tient dans les deux mains et on va frapper la corde qui est une sorte de harpe posée. Enfin, je sais pas trop comment. C'est très visuel. Il y a des photos sur internet. Et donc on a ajouté un psaltérion jusqu'à 45 musiciens pour donner cette patte orchestrale et cette variété de couleurs. Enfin, on a essayé de donner cette variété de couleurs. J'espère que les auditeurs vont pouvoir l'entendre.
Et c'est un programme qui nous transporte donc à Venise. La musique de Vivaldi, vous l'avez déjà jouée à Venise, Théotime Langlois de Swart?
Je crois jamais.
Jamais? Mais j'imagine que c'est
J'ai fait d'autres concerts. J'ai fait un concert de musique romantique à Venise, donc ce qui est au Palazzetto Bruzzani. Mais jamais je vais le dire.
Ah bah, un jour, un concerto dans une église à Venise.
Ah ben, j'en rêve.
Alors, pour cet enregistrement, comme c'était le cas au concert, ce formidable concert que vous avez donné à la salle Gaveau, notamment autour de ces concertos, vous dirigez, en tout cas, vous menez les musiciens, parce qu'on ne peut pas parler véritablement de direction. On sait que vous êtes aussi, que vous aimez aussi la direction. Vous avez dirigé quelques productions lyriques. Il vous est arrivé de diriger les Arts Florissants. C'est une activité que vous avez envie de développer?
Absolument. Alors, j'ai dirigé du violon les Arts Florissants aussi, mais dirigé avec les bras, j'ai pu faire Zémir et Azor de Grétry à l'Opéra Comique. C'était une expérience vraiment, j'ai adoré.
Et le Bourgeois Gentilhomme aussi.
Le Bourgeois Gentilhomme. Et je trouve finalement, c'est notre rapport au son qui change et à la production sonore. Mais finalement, le fait de pouvoir diriger avec les bras, on peut aussi interagir avec le son immensément.
C'est pas frustrant, quand?
Absolument pas. Ouais. Non, parce que c'est vraiment, en fait, je dirais que je fais presque la même chose qu'avec mon violon, avec les bras. J'essaye d'imprimer finalement entre l'archet du violoniste et la baguette de direction, en fait c'est quasiment, ça peut être les mêmes gestes, parce que quand on donne un départ avec son archet, c'est quasiment la même respiration et la même levée, on dit les levées des chefs d'orchestre, c'est très important. Et donc finalement ça conduit mon geste par rapport au son.
Et vous avez des nouveaux projets en tant que direction avec les bras?
Oui, alors je vais faire le Requiem de Mozart l'année prochaine en Pologne et à Versailles.
Ouais, avec quel orchestre?
Alors en Pologne, c'est avec Capella Cracoviensis et l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles et le chœur de l'Opéra Royal de Versailles.
Et puis des projets avec le Consort et une nouvelle tournée aux États-Unis. Vous étiez déjà il y a quelques mois aux États-Unis où vous avez triomphé. Vous repartez pour plusieurs semaines là?
Oui, on fait deux tournées par an. On a cette chance-là. Donc on sillonne les États-Unis. et avec où on rencontre beaucoup de public qui est passionné par la musique baroque, des fois qui découvre aussi ce répertoire parce que c'est notre répertoire, mais c'est vrai
oui,
qu'on aime le partager.
Vous jouez la musique de Dandrieu, vous jouez la musique entre autres, la musique française aussi. Bon, on vous souhaite un bon voyage aux États-Unis. On va se quitter avec un nouvel extrait de ce double album, un extrait du plus célèbre des concertos qui figure dans cet album, c'est L'été de Vivaldi, mais dans une version un peu différente puisque c'est la version d'origine, c'est ça ?
Alors on a trouvé ce manuscrit à Gênes et donc peut-être que c'est une version de travail, une version qu'il aurait écrite avant celle publiée chez Le Sen en 1725 à Amsterdam. Et donc nous, on y a vu justement les premières idées, les ébauches, avec une partie de violon extrêmement aboutie déjà, mais la basse qui a été modifiée dans le premier mouvement et dans le deuxième mouvement. Et donc c'est comme d'être sur les traces de la création du grand maître vivaldien.
Voilà, qu'est-ce qui change par rapport à des petits changements dans les premiers et deuxièmes mouvements ?
Ben donc dans le deuxième mouvement, l'accompagnement est différent et ça donne une idée vraiment plus continuum de, normalement c'est les mouches et les moustiques qui sont symbolisés par cet accompagnement, et là les mouches et les moustiques ne s'arrêtent pas. ils jouent sans discontinuer.
Voilà, on va se quitter avec ces mouches et ces moustiques de Vivaldi. Merci beaucoup Théotime Langlois de Swart pour ce merveilleux album que l'on va beaucoup entendre et avec beaucoup de plaisir ces prochains jours sur l'antenne de Radio Classique.
Merci. Beaucoup, merci.
les deux derniers mouvements de l'été de Vivaldi, Partez au Team Langlois de Swart et le Consort, un nouvel extrait de ce formidable double album publié par Harmonia Mundi, qui sera donc trophée Radio Classique la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Amandine Legris pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du duo de piano Ludmila Berlitskaya, Arthur Ancel, avec qui nous nous plongerons dans le monde de l'enfance. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.